Troisième partie de ce radiobarque avec le procureur de la République de Narbonne, Éric Camus. Alors, on a expliqué votre fonction, d'abord la justice au niveau national, ce que vous faites, vous, sur le terrain. J'aimerais maintenant s'adresser, que nous adressions un petit peu plus à l'homme, son ressenti, parce que les actions que vous avez menées, on l'a vu, sont parfois surprenantes, ça n'est pas le mot, mais en tout cas inhabituelles. Et alors, la façon dont vous les percevez, dont vous les dirigez, ça nous intéresse. Donc, vous avez fait allusion, par exemple, à la recrudescence de la violence au niveau scolaire. Est-ce que c'est quelque chose que on peut expliquer, ressentir, ou on le prend en pleine figure sans l'avoir vu venir ?
Alors d'abord, c'est un phénomène dont nous entendons régulièrement parler.
Ah oui,
c'est un phénomène que nous constatons tous, tout simplement parce que nous avons nos enfants qui nous le disent, qui nous en parlent, qui nous font part de leur mal-être, qui nous font part aussi de cette pression qu'ils subissent à l'école. Alors, pas la pression des enseignants, je parle plutôt de la pression sociale avec, bien évidemment, cette arrivée dans notre quotidien qu'est le téléphone portable.
Notamment,
avec
oui.
Toutes les problématiques de harcèlement qui bien évidemment nous sensibilisent. Et il était essentiel, à mon sens, de s'emparer de ce phénomène. Parce que nos enseignants nous le disent depuis des années, ils nous parlent de leur malaise, on le lit, on l'entend. Et il était important pour moi de leur dire que la justice est avec eux et qu'ils peuvent aussi solliciter la justice, en tout cas qu'il y a des choses à faire sur ce terrain-là.
Parce que l'école, traditionnellement, on souhaite en tout cas que ça soit une sorte de sanctuaire. Or là, manifestement, la sanctuarisation, elle n'y est plus tellement.
Alors elle y est parce qu'il y a d'abord un énorme travail qui est fait par l'éducation nationale elle-même, par les directeurs d'académie, par les recteurs, qui est un travail d'organisation, un travail d'analyse, un travail de répartition que personne ne voit. Et lorsque finalement on ne voit pas le travail qui est fait, on a l'impression qu'il n'existe pas. Je peux d'autant mieux en parler qu'il y a toute une partie de mon propre travail que personne ne voit, alors même qu'en tant que chef de service, je pose des organisations, je réfléchis constamment à redessiner des organisations, tout cela pour être le plus efficace possible. Le point important, c'était que nous mettions ces efforts en coordination. Et c'est vrai que, pour avoir rencontré le directeur académique, directeur départemental d'académie récemment, on s'est rendu compte que nous avions, lui et moi, exactement les mêmes vues de la situation et surtout une vraie volonté d'avancer, une vraie volonté d'être auprès du corps enseignant.
Voilà. Les mêmes vues, mais pas les mêmes moyens, d'où la nécessité de collaborer, en quelque sorte.
C'est ça, c'est cette coordination dont je parlais, et c'est ce qui m'a conduit, il y a 18 mois, à rencontrer l'ensemble des chefs d'établissement pour leur expliquer comment ils pouvaient solliciter la justice, qu'ils pouvaient en attendre, et surtout quelle était la volonté qui était la mienne d'être vraiment avec eux pour les aider, les accompagner et les protéger. Parce qu'il est absolument essentiel que nos enseignants se sentent protégés pour exercer correctement leur métier. Leur métier, c'est diffuser les savoirs. Leur métier, c'est faire en sorte que nos enfants apprennent le mieux possible. Donc, ils ne sont pas là pour, non pas gérer des incidents, mais pour être victimes d'agressions, comme j'ai pu le constater récemment. Et de ce point de vue-là, c'est vraiment leur envoyer ce message en disant qu'il y a une volonté forte en ce qui concerne le ministère public d'être réactif et d'assurer cette protection indispensable.
Éric Camus, alors je le disais en début d'émission, vous êtes un procureur qui communique, ce qui n'est pas toujours le cas dans une institution qui est un peu comme l'armée, une grande muette. Donc vous êtes au contact alors des médias, pas seulement, mais des médias sous toutes leurs formes. Alors les médias, on le sait, il faut savoir les utiliser, c'est parfois une arme à double tranchant. Est-ce que vous êtes... comment abordez-vous l'ensemble des médias ?
Simplement, en disant la vérité. Il suffit simplement d'expliquer les choses et surtout faire en sorte que ce qui n'est pas su ou compris puissent l'être en posant des mots et faire en sorte que nos concitoyens puissent comprendre que derrière la justice avec un J majuscule, il y a des femmes et des hommes qui travaillent pour eux et qui travaillent beaucoup. Si vous passez un samedi soir ou un dimanche soir à proximité du tribunal au mois de décembre ou au mois de janvier, quand la lumière du jour disparaît à partir de 17h, 18h, ne vous étonnez pas si vous y voyez encore de la lumière au tribunal.
Voilà, donc ça ne veut pas dire quand on voit de la lumière qu'il faut y entrer.
C'est ça.
Au-delà de la boutade. Alors, la non-communication de cette maison, elle est parfois fondée, puisqu'on sait que la justice, dans son travail, dans l'exécution de ses tâches, a parfois besoin de grande discrétion. Où situez-vous le point d'équilibre à ce niveau-là ?
Alors le point d'équilibre, il est simple à trouver, c'est l'article 11 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire que les enquêtes doivent rester secrètes. Donc les enquêtes restent secrètes. En revanche, parler de ce que nous faisons au quotidien, parler de nos actions, dire qui nous voyons, qui nous rencontrons et quelles sont nos ambitions, c'est informer nos concitoyens que nous travaillons pour eux, à leur service, et faire en sorte que cette justice puisse avancer, en tout cas qu'ils puissent être rassurés à l'égard de leur justice.
Et alors quand on voit ce qui se passe, alors je vais prendre un exemple tout récent et très symptomatique me semble-t-il, on nomme un nouveau gouvernement, il y a des nouvelles figures qui apparaissent, et immédiatement sortent quelque part dans certains médias des accusations, alors parfois anciennes, qui remettent même en cause politiquement la personne concernée. Comment vous, homme de justice, percevez-vous ça ?
C'est un phénomène auquel nous sommes maintenant confrontés et malheureusement nous y sommes habitués. C'est vrai que les médias s'emparent aujourd'hui très rapidement et souvent trop rapidement de certaines affaires, alors même qu'il faut laisser au temps judiciaire le soin de définir ce qu'est la vérité. Et je suis le premier à le regretter parce que l'important, c'est la sérénité. Et la sérénité va rarement avec la vitesse. Il y a des choses à trouver encore. Il y a des choses à coordonner avec les médias lorsqu'il s'agit de parler des affaires, lorsqu'il s'agit de parler des personnes, parce que lorsqu'on est accusé publiquement de délits et même de crimes, c'est quelque chose que vous portez au quotidien. La justice est là pour savoir où est la vérité. Je rappelle qu'elle elle le fait à charge, mais aussi à décharge.
Mais justement, là, on a l'impression que la méthode utilisée, c'est le fameux calomnier. Il en restera toujours quelque chose. Même si la justice, après, passe et innocente, en quelque sorte, la personne accusée, il va en garder certains stigmates.
Alors d'où l'important pour nous de communiquer, d'où l'important pour nous de dire les choses, de dire lorsqu'une personne est coupable, parce qu'elle a été condamnée par un tribunal, mais aussi de dire lorsque la personne est innocente, parce que, eh bien tout simplement, la justice a considéré que les accusations dont elle faisait l'objet étaient sans fondement.
Voilà. Donc effectivement, il faut pas que ça soit toujours à charge, que les choses soient faites, mais qu'à un moment, ça soit à décharge et clairement. On a l'impression que ça n'est pas toujours le cas, y compris dans les médias. Il faut faire son mea culpa, c'est-à-dire lorsque quelqu'un est accusé, on le monte en épingle. Lorsque quelqu'un est innocenté, on le passe beaucoup plus sous silence.
Ça, c'est une vraie problématique, mais qui relève plus de la déontologie des journalistes que de l'action publique.
Absolument. Mais justement, est-ce que pour vous, c'est un peu irritant de voir ce genre de poids de mesure, en quelque sorte ?
Je ne dirais pas irritant. Je dirais plutôt décevant. Et c'est vrai que ce que je regrette à chaque fois, c'est qu'on ne donne pas à la justice le temps nécessaire pour éclairer sur les accusations qui sont portées.
Alors, on accuse souvent la justice de lenteur. Vous, vous dites, ça fait partie de la nécessité de la fonction.
Ça fait partie de l'analyse et de la réflexion, parce que nous sommes porteurs, à un moment donné, d'une vérité. La vérité sur la culpabilité d'une personne, la vérité sur l'innocence d'une personne. Et cette vérité-là, elle se détermine au regard des éléments qui ont été apportés par une enquête. Il n'est pas possible de dire aujourd'hui vous êtes coupable et au bout d'un mois ou deux, ah pardonnez-nous, on s'est trompé, en fait vous êtes innocent. Donc il faut accorder ce temps. Et c'est vrai que nous sommes dans une société où tout va trop vite. Tout va beaucoup trop vite et on voudrait la réponse immédiatement. Alors que la justice rappelle peut-être à chacun le sens de sa responsabilité personnelle en disant attendez, attendez que l'on vous le dise.
Oui, donc cette lenteur, elle est absolument un équilibre nécessaire et indispensable pour vous.
C'est pas une lenteur, c'est le temps que
prennent. Enfin, c'est perçu comme.
Voilà, mais c'est le temps que prennent les investigations pour savoir ce qui s'est passé.
Et un dernier mot, Éric Camus, quand vous entendez la justice accusée de laxisme. Alors, c'est un vieux serpent de mer, ça ressort régulièrement, c'est pas nouveau. Mais ça ressort, c'est encore perçu dans le public assez souvent.
Il y a deux choses. Il y a d'abord un vrai décalage entre ce que nos concitoyens perçoivent parfois et ce que nous faisons en réalité. Des condamnations, il y en a régulièrement. Des personnes sont incarcérées ou peuvent se voir confisquer la totalité de leurs biens, subissent la justice, il n'y a pas d'autre mot. Et en même temps, l'impression, comme vous l'indiquez, c'est que la justice n'est pas suffisamment violente parce que nos concitoyens ressentent cette violence. On voit bien que quelque part, il y a d'un côté cette violence sociale qui est vécue régulièrement et qui a animé des mouvements sociaux particulièrement importants, et en même temps, eh bien, cette justice que l'on voudrait encore plus violente. Mais la justice n'est pas un exutoire. La justice, elle est là pour rendre le juste. Et pour rendre le juste, elle le fait en application de la loi. Et ça s'appelle la République. Et quelque part, c'est peut-être parce que notre justice a cette recherche constante d'un point d'équilibre qu'elle est ce qu'elle est et que nous vivons dans la société qui est la nôtre.
En tout cas, merci Éric Camus donc d'être venu alors communiquer, osons le mot, vous communiquez, vous le faites avec conviction et parce que vous vous dites en avoir ressenti le besoin. Merci en tout cas, j'espère d'ailleurs que de temps en temps on pourra vous retrouver pour faire le point. Les prochains invités, puisqu'il y en aura deux, ce seront Marc Azéma, alors archéologue et réalisateur, et Ambroise Lassalle, qui est conservateur du musée Narbovia, avec lesquels nous évoquerons cette magnifique et impressionnante exposition qui se met en place à Narbovia et qui va permettre aux Narbonnais, petits ou grands d'ailleurs, d'imaginer enfin ce qu'a pu être la ville de Narbonne à l'époque romaine, par des reconstitutions assez extraordinaires. Donc ils viendront nous en parler. Et bien entendu, je rappelle aux auditeurs que Radio Barque continue jusqu'à la fin de la saison. Merci Éric Camus, merci aux auditeurs de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
Merci à vous.